méditer avec vous sur le message du Saint-Père pour le carême 2017, vous qui faites partie de la conférence Saint-Vincent de Paul, ou qui êtes des amis, ou qui simplement venez pour un temps spirituel. Et je vous propose de prendre tout de suite ce qui vous a été distribué, c'est-à-dire le message du Saint-Père qui est assez court et sur lequel nous pourrions méditer ensemble. Auparavant, ça n'a pas pu être mis dans la feuille, mais le Saint-Père commence par une chose qui est assez intéressante. Le carême, c'est son introduction, c'est juste avant ce qui est écrit ici. Le carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l'esprit grâce aux moyens sacrés que l'Église nous offre, le jeûne, la prière et l'aumône. Ne pas nous contenter d'une vie médiocre. Voilà, donc c'est intéressant. Le Saint-Père, d'abord, il nous a dit, vite, on a ce temps qui est favorable pour se tourner vers le Seigneur. On voit bien que nos vies, parfois, sont un peu médiocres, non pas que, bon, si nous sommes ici, a priori, c'est pas que nous faisons le mal de façon intense. Non, je ne pense pas. Bon, certes, nous sommes des pécheurs. Mais c'est aussi découvrir que le Seigneur nous appelle à quelque chose de plus grand. Le Seigneur nous appelle à quelque chose de mieux. Et à travers ce temps de carême, c'est se remettre face à ce qui est plus grand, ce qui est mieux et que le Seigneur veut pour nous. Alors voilà, on sort de notre médiocrité, de ce train-train quotidien qui peut nous habiter pour aller bien plus à la rencontre du Seigneur et puis et nous exhortant, dit le Saint-Père, à une conversion sincère. Voilà, c'est... Mais le carême est un nouveau commencement, dit le Saint-Père, un chemin qui conduit vers une destination sûre, la Pâque, la résurrection. Voilà, c'est un chemin. C'est comme un condensé du temps, le carême. C'est comme un condensé du temps. Hein, notre temps, la manière de voir le temps comme chrétien, c'est une manière assez particulière. Nous voyons un temps fléché, c'est-à-dire un temps qui a un départ, mais aussi un temps qui a une fin. Et parce qu'il a un départ et une fin, que ce soit notre propre histoire, mais aussi l'histoire du monde, ça fait qu'il y a une densité du temps. Ça fait que ce temps-là, d'une manière ou d'une autre, retentira dans l'éternité. Et c'est ça qui est souligné, en particulier dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, qui occupe la méditation du Saint-Père lors de son message pour le carême 2017. Oui, c'est un temps qui demande comme une certaine attention, sortir de ce qui peut être l'habitude et puis nous réveiller, parce que le temps est court, et nous préparons ici-bas, sur cette terre, ce qui constituera l'éternité dans l'au-delà. Donc c'est un temps fléché, c'est un temps qui est condensé, c'est un temps qui est limité, notre temps sur terre est un temps limité, et donc le fait de cette limite, je trouve que c'est quelque chose qui nous appelle aussi quelque part à avoir une vision des choses différente, parce que on prend conscience que de la manière dont nous vivrons ici-bas, eh bien, de ça dépendra notre sort dans l'éternité. Donc, directement avec le carême en tant que tel, hein, qui est comme un résumé de notre vie, avec le carême, on voit que déjà c'est un temps qui nous est donné, qui a un commencement, qui a une fin, comme notre vie a un commencement et une fin, et donc ça nous demande dans ce temps-là de nous recentrer sur l'essentiel et de nous remettre face au Seigneur et de pouvoir dénoncer éventuellement en nous des manières d'agir, des manières de faire, etc., qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. C'est donc la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare que le Saint-Père a pris pour méditer sur le carême. Vous l'avez en Luc 16, 19 à 31. Je vais vous la lire, comme ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. On l'a eu jeudi dernier, pour ceux qui ont l'occasion d'aller à la messe en semaine. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. » Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur dans ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je t'en prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Voilà, c'est la parabole, donc en Luc 16, 19 à 31, la parabole que le Saint-Père a choisie pour méditer et nous enseigner. La première chose, c'est que la parabole présente ces deux personnages. L'autre est un don. C'est le thème un peu de ce carême. Donc c'est un peu la première partie. On va suivre progressivement le texte du Saint-Père. La parabole qui présente les deux personnages, avec le pauvre qui est décrit de façon un peu plus détaillée, et le riche aussi qui est là. Et on voit des quelque part, comme souvent c'est un style biblique, comme le trait forcé. Parce que c'est un riche qui vit de façon très opulente, puisqu'il a un manteau de pourpre, si j'ai bien bonne mémoire, il a un manteau de pourpre, il fait bombance. Ce manteau de pourpre, c'est-à-dire, c'était la tribu des rois. Il fait bombance pratiquement tous les jours, chaque jour des festins somptueux. Donc voilà, c'est comme l'image de personne, mais c'est le trait forcé pour nous aider à faire prendre conscience que de ce que nous vivons de façon peut-être différente dans notre vie. Ce qui est intéressant, c'est que le pauvre a un prénom, le riche n'a pas de prénom. Le pauvre a un prénom, il s'appelle Lazare. On ne connaît pas le prénom du riche. On ne connaît pas le prénom du riche. Et pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas de prénom, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous pourrons nous identifier à cette personne-là. Et quand Jésus cite, par exemple, une parabole sans prénom ou parle de quelqu'un, etc., c'est signe qu'il laisse la possibilité à ses auditeurs de venir s'emparer de cette parabole et de se l'appliquer à eux d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que donc il y a cette situation désespérée, on voit bien c'est une scène dramatique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il arrive que c'est ce que nous dit le Saint-Père, le péché rend aveugle. C'est-à-dire que je ne vois plus le pauvre qui est à ma porte. Il devient transparent. Il n'est plus une personne avec un prénom, selon la parabole. Il est juste transparent. Il n'existe pas. Et vous qui êtes appelés à être auprès de personnes qui sont dans la solitude, je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait providentiel qui vous est adressé comme membre de la conférence Saint-Vincent de Paul. C'est justement ça, c'est vous visiter des personnes qui, pour la plupart de nos contemporains, sont transparentes. Bien sûr, elles ont une identité. Mais si je ne reconnais pas l'autre, eh bien, l'autre n'existe pas et je n'existe que dans une relation. Nous sommes ici, c'est que nous avons nos réseaux de relations à travers nos familles, à travers nos amis, etc., qui fait aussi qu'on existe. Ce n'est pas juste le fait d'exister biologiquement, mais aussi socialement. Et ce Lazare-là, qui était aussi qui était décrit comme vraiment un homme à toute extrémité, eh bien, il est invisible aux yeux du riche, mais aux yeux de ceux qui aussi venaient dans la maison du riche. On n'en parle pas dans la parabole. Mais s'il faisait des festins, on imagine volontiers que ce n'était pas simplement pour lui-même, ce fameux riche, mais c'était que les gens venaient, et puis voilà, venaient, rentraient, sortaient, sans voir l'autre, complètement sans... Ça nous parle, nous aussi, de personnes que nous pouvons croiser. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours on ne sait pas trop comment faire, de personnes qui viennent mendier, de personnes qui sont souvent à la porte de l'église, il y en a. Mais là, c'est la porte du domicile. Alors, imaginons qu'à la porte de votre domicile, il y ait une personne qui se tient jour et nuit, et ça bougerait. J'imagine ça par exemple, s'il y avait ça à la porte de l'abbaye, la vénérable abbaye d'Ourscan, eh bien, qu'est-ce que nous vivrions, nous, comme frères aussi? Mais voilà, je préfère ne pas voir. C'est plus quoi. L'autre, au fond, m'emmène loin de ma zone de confort, et donc je préfère pas le voir. Alors, comment faire face à ces personnes qui sont là, qui nous demandent, et encore plus à Paris qu'à Compiègne, évidemment. Hein, comment faire? Quelle attitude faire? Je pense que c'est d'abord les reconnaître comme personnes. D'abord les voir. D'abord s'arrêter. L'autre, voir l'autre comme un don, c'est voir tout simplement l'autre qui existe. Le saluer. Peut-être lui demander son prénom. On sait bien que la question de l'argent est compliquée parce que les personnes qui sont dans cette situation aussi parfois ont des vices, etc. Bon. Maintenant, est-ce que nous sommes irréprochables dans la manière d'utiliser notre argent? Pas forcément. Donc on peut aussi s'interroger par rapport à ça. Est-ce qu'on n'ose pas l'aider et voir parfois on a des pensées mauvaises parce qu'on se dit, tiens, mais celui-là, pourquoi il ne travaillerait pas? Pourquoi ça paraît un homme jeune, etc. Il a deux bras, deux jambes, voilà. Et on ne se penche pas. Et je trouve que la grâce, c'est quand on commence à rentrer dans la complexité des personnes que ces personnes-là découvrent une existence. Donc, c'est vraiment d'avoir une manière c'est d'abord voir l'autre. Voir l'autre comme un don, c'est d'abord le reconnaître, lui dire « tu existes, il y a quelque chose qui existe ». T'es pas simplement transparent, t'es pas le clochard de la rue Intel, c'est « tu existes comme personne ». Et donc, ça veut dire s'arrêter, ça veut dire prendre du temps, ça veut dire sortir parfois de nos vies trop remplies pour juste avoir une qualité de présence. Alors, peut-être nous ne pourrons pas sortir cette personne de la misère, parce qu'on sait très bien que dans les cas de misère, il n'y a pas que la question matérielle. Dans les cas de misère, c'est bien plus aussi des questions de psychologie, de caractère, de difficulté de la personne en général, qui, dans la partie matérielle, trouve une expression. Et donc voilà, cette personne-là, elle est tout à fait déconnectée de la société à cause de ça. Mais il y a eu d'autres manières de se déconnecter auparavant. Et donc c'est intéressant de voir ça, de dire que parfois le péché nous rend aveugles. Le fait que nous soyons enfermés dans nos sociétés occidentales, en particulier dans un confort, dans un... Je préfère ne pas voir. Je préfère pas voir parce que ça aurait... Si je me rends compte de ce qui arrive, quelles conséquences est-ce que ça aurait? Qu'est-ce qu'il arriverait si je me rends compte? Et si je commence à rentrer un peu plus avant dans la vie de cette personne et la connaître et la découvrir et voir son passé? Et on sait très bien qu'avec les personnes plus pauvres, dès qu'on met, j'allais dire, un petit doigt, du coup, on est pris le bras entier parce que les besoins sont immenses. Et donc, voir d'abord l'autre, c'est le reconnaître comme une personne, mais aussi, c'est prendre un risque. Quelque part, il y a un risque dans le fait de voir. Hein, du coup, c'est... Et on voit bien que... Il y a une forme de qu'est-ce qui empêche de voir, nous dit le Saint-Père, là vous l'avez, on aperçoit en lui la manière dramatique, la corruption du péché qui se manifeste en trois moments successifs, l'amour de l'argent, la vanité, l'orgueil. L'amour de l'argent, hein, il, la vanité, il prend des grands, un manteau de pourpre, etc., c'est ce fameux riche dont on ne connaît pas le nom, et l'orgueil, voilà, il est reconnu, il invite, etc., etc. C'est à l'intérieur d'un passage où Jésus parle justement de ce rapport avec l'argent. Donc c'est intéressant de se dire que le péché rend d'abord aveugle. Un certain amour de l'argent rend aveugle. Ça nous obscurcit la vue. Ça fait qu'on ne voit plus, on ne se rend plus compte. Hein, on ne se rend plus compte. Hein, et donc, c'est intéressant de se dire où est-ce que j'en suis de cette utilisation de l'argent que nous avons. Hein, nous qui sommes ici, nous avons ça, une aisance, moi aussi. Bon, on a une certaine aisance, une certaine facilité, etc., qui nous permet aussi de prendre soin d'autres, de notre famille. Il n'y a pas que du mauvais. Mais est-ce que cet argent me replie sur moi-même? Attention de ne pas voir un argent, l'argent honteux, ce qui ne serait pas juste, mais de voir l'argent plutôt comme un moyen et non pas comme une finalité. Et donc, d'où l'invitation pendant le carême de donner, de partager, pour justement nous défaire de ce qui pourrait, nous au contraire, nous recentrer sur nous-mêmes. Parce qu'au fond, vous savez bien, dans les tentations du Christ, qu'on a entendu le premier dimanche de carême, eh bien, il y a les trois tentations. La tentation des plaisirs, j'allais dire, désordonnés, hein, mettre le plaisir comme source de nos vies, but de nos vies, hein, avec le pain qui la pierre qui se change en pain. Ensuite, il y a la tentation des richesses, du pouvoir, et puis la tentation de l'orgueil de l'esprit. C'est du sommet du temple, voilà, tu vas te jeter, voilà. Non, on se dit, c'est trois formes d'orgueil, c'est trois formes d'idole potentielle. Et donc, à quoi est-ce qu'on reconnaît l'idole? C'est que l'idole ne nous laisse pas de repos. C'est ça l'idole. Elle ne nous laisse pas de repos. Elle ne nous laisse pas de... on peut y aller toujours plus, on peut avoir toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir, toujours plus de plaisir, etc. Un peu comme le hamster dans sa roue. Si vous voulez, qui fait que je recherche toujours plus les choses. Et c'est contre ça que Jésus s'élève. De dire que ça me renferme, ça devient non pas un moyen, mais une finalité. Or, la bonne manière d'entrevoir l'argent, c'est précisément de le voir juste comme un moyen. Mais c'est en aucun cas une finalité. Et c'est ce que le Saint-Père dénonce régulièrement à travers un usage excessif de l'argent dans nos sociétés où la personne humaine passe après les bénéfices, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et le Saint-Père le rappelle très clairement. Non, ça, c'est pas bon. Si on fait passer la personne humaine après la recherche de bénéfices, etc., mais il y a quelque chose qui est désordonné. C'est une idole. Et donc, voilà, nous aussi, alors, on n'a peut-être pas dans notre vie cette situation-là. C'est toujours intéressant de se dire où est-ce que j'en suis de ma capacité de désintéressement, où est-ce que j'en suis de revisiter peut-être des petites choses ou parfois même dans les familles, il y a pu y avoir des brouilles à cause d'héritage des parents, etc. Et donc, où est-ce que j'en suis de ça? Est-ce que je suis au clair là-dessus? Est-ce que j'ai des rancœurs parce que j'estime que j'aurais voulu avoir plus ou pour une raison ou l'autre? Voilà, le Seigneur nous dit, voilà, défais-toi de ça, laisse de son... C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de reconnaître l'autre. Donc, voilà, c'est quelque chose qui... Hein, et Saint Paul qui dit, dans la première aux Timothée, le Saint-Père qui continue, vous avez dans le texte, selon Paul, la racine de tous les maux, hein, c'est l'amour de l'argent. Là est la cause principale de la corruption et la source de la jalousie, du litige, du soupçon. L'argent peut réussir à nous dominer et devenir ainsi une idole tyrannique, au lieu d'être un instrument au service pour réaliser le bien et exercer la solidarité envers les autres. Voilà, c'est un obstacle, ça nous rend aveugles, ça nous enferme sur nous-mêmes. Et puis après ça, le Saint-Père nous invite à méditer sur, au fond, la parole qui est aussi un don. La parole qui est un don. Il médite sur la vanité, c'est-à-dire que non seulement la cupidité, mais ensuite la vanité, c'est-à-dire je veux paraître, je veux avoir aux yeux des autres une importance, je veux être reconnu. La parabole nous montre ensuite que la cupidité rend le riche vaniteux. Je veux reconnu que je suis un homme important, une personne importante dans la paroisse, dans la cité. Je veux avoir une reconnaissance qui est peut-être excessive, un désir. L'apparence masque la vie, le vide intérieur. Et on voit bien que dans nos sociétés, c'est beaucoup une société de culture de l'image, culture de l'apparence. Et puis ensuite, il dit, le niveau le plus bas, c'est la déchéance morale, c'est-à-dire l'orgueil. L'homme riche s'habille comme un roi, singe l'allure d'un dieu, oubliant d'être simplement un mortel. J'oublie aussi que j'aurai à répondre de mes actes. J'oublie la présence de Dieu. J'oublie l'abord. C'est ça dans l'idolâtrie. Il y a une forme de négation, de déni de notre finitude. Nous aurons à répondre de nos actes. Et c'est ce qui fait en même temps notre dignité, le fait de répondre de nos actes. Parce que dans la mesure où je réponds de mes actes, j'en suis aussi vraiment les auteurs. Je suis aussi l'auteur de ces actes. Et le fait d'être l'auteur, ça me remet face à ma liberté, qui s'engage dans un sens ou dans un autre. Donc le jugement dernier, parce que c'est aussi une parabole du jugement dernier, cette parabole, au contraire, je trouve que dignifie la personne humaine. Parce que souvent, on l'a vu, c'est une manière que l'Église a de maintenir les gens dans une sorte de servitude et puis de leur faire supporter l'insupportable pendant la vie, parce qu'après coup, ils auront le bonheur éternel. Ça a pu peut-être exister, mais ce n'est pas ça l'objectif du jugement premier. C'est d'abord prendre conscience que nous sommes les auteurs et notre liberté s'engage, et parce que notre liberté s'engage, il y a quelque chose de notre éternité qui s'engage. Et de se rappeler que nous aurons à répondre, il y aura un moment à notre mort, si on célèbre, c'est-à-dire on fait mémoire des 2 mois du départ du père Maroun aujourd'hui, on voit bien que la mort, elle passe comme un voleur, et puis qu'elle ne laisse pas du tout de répit, puis elle arrive comme ça de façon subite. Et alors, qu'est-ce qu'on aura à présenter au Seigneur? Qu'est-ce que j'aurai à présenter au Seigneur si aujourd'hui je dois me présenter devant lui? Et tous les saints ont insisté sur cet aspect de la vie éternelle. Et vous qui êtes, je pense pour la grande majorité, parents ou grands-parents, on met un enfant au monde, pour nous chrétiens, pour la vie éternelle. On ne le met pas au monde simplement pour cette terre. C'est pour la vie éternelle que je le mets au monde. Il y a quelque chose de l'éternité qui habite en lui. Son âme spirituelle et immortelle perdurera après la mort de son corps, cet enfant qui vient de naître. Et donc, du coup, ça donne toute une intensité, ça donne toute une manière de vivre qui n'est pas la manière du monde. Mangeons, buvons, mourons. C'est pas comme ça que nous envisageons. Et puis, de toute façon, après, il n'y a plus rien. Au contraire, il y a quelque chose qui est là, qui est donné. L'orgueil, la vanité, l'amour de l'argent qui sont qui empêchent de voir l'autre, qui nous replient sur nous-mêmes, qui nous fait perdre de vue que nous aurons à répondre de nos actes, qui établissent une certaine impunité, qui aussi, qui nous fait vivre dans un certain déni. On est aveuglé sur notre vie. Et donc, on ne prend plus conscience qu'un jour, on aura à répondre. C'est cette vanité, cet orgueil. Donc voilà, je trouve que c'est important de se remettre face à ça. Au fond, le carême, c'est se remettre face à ce moment-là, si le Saint-Père l'a choisi. C'est précisément que c'est important et que nos sociétés... Et on voit bien que nos sociétés éludent la mort. Elles mettent la mort de côté. Je trouvais très beau que dans la paroisse, par exemple, que l'on ait un long temps pour veiller le Père Serge. C'était vraiment, un temps de grâce pour la paroisse avec cette grande épreuve. Mais au moins, on n'a pas peur de la mort. Mais on voit nos sociétés qui n'osent pas dire. On dit telle personne a disparu, telle personne, mais elle est partie où? Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que de ce côté-là... nous n'avons pas peur de la mort. Nous voyons la mort comme un passage. C'est un passage. Nous voyons la mort dans l'espérance. Nous voyons la mort comme le moment de la rencontre. Nous ne sommes pas comme des personnes qui sommes terrifiées par le vent. Ce Dieu auquel nous avons cru ici-bas, mais nous n'avons qu'un désir, c'est de le rencontrer face à face. Nous le croyons, et donc cette mort-là, si elle vient, bien que le Seigneur nous trouve prêts. Hein, c'est souvent ce qu'on demande dans les prières, de la mort subite, délivre-nous Seigneur. C'est-à-dire que nous ayons le temps de nous préparer à la mort. Parce que on voit bien avec voilà ce qui s'est passé, il n'y a pas toujours le temps de se préparer. Donc que le Seigneur nous trouve prêts. Parce que le temps, il y a comme une urgence. Le chrétien, il a ce sentiment d'une urgence dans sa vie. Il y a une urgence parce que ça peut venir tout de suite, ça peut. Et donc voilà, c'est ça aussi assez beau de méditer là-dessus. Mais après, le Saint-Père, c'est le numéro 3, il parle de la parole est un don. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement le riche, il est aveugle, il ne voit plus le pauvre Lazare, il s'est enfermé dans sa bulle, c'est devenu quelqu'un qu'on ne remarque plus, qui n'existe plus, qui est transparent, mais il est devenu sourd. Et j'allais dire, cette surdité est à l'origine de sa cécité. Cette surdité qui ne vient pas de la maladie ou de l'âge. Cette surdité qui ne vient pas de la maladie ou de l'âge, mais cette surdité qui fait que je n'écoute plus la parole de Dieu. C'est ce qui est dit dans la parabole. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Hein, quand le riche se tourne vers Abraham, il dit, mais écoute, envoie Lazare prévenir, j'ai encore des frères, etc. Mais si qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, il n'a plus écouté. Le riche est enfermé, est devenu sourd. Non seulement il est devenu aveugle, mais il est devenu sourd. Sourd aux appels des autres. Cette surdité qui est très grave, parce que la surdité, c'est l'autre nom du péché. La surdité spirituelle. Parce que vous savez que le premier commandement, c'est écoute. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Mais le premier commandement, c'est écoute. C'est-à-dire, mets-toi à l'écoute de l'autre. Mets-toi dans une dimension de décentrement. Laisse-toi interpeller par Dieu qui t'appelle. Écoute. Et là, il y a une surdité. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fort. Il dit, mais oui, mais si Abraham dit, même si je ressuscite quelqu'un dans l'entre les morts, eh bien, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne croiront pas. C'est-à-dire que nous avons de quoi, si nous écoutons les signes du Seigneur, si nous écoutons sa parole au quotidien, si nous laissons toucher intérieurement, eh bien, cela va nous rendre la vue. On va revoir, on va voir à nouveau, parce qu'on a entendu à nouveau. Et vous savez au fond que du verbe de l'écoute a été formé le mot obéissance. Obéissance, c'est ob audire. J'écoute quelque chose qui me vient d'ailleurs. Et non seulement j'écoute, mais au sens fort, c'est que je mets en pratique ce que j'écoute. Donc c'est intéressant de voir que pour le riche, il n'a pas écouté, il ne s'est pas laissé interpeller. Et c'est vrai que ça nous laisse très perplexes par rapport à nos sociétés de consommation, où il n'y a plus cette attention à la parole de Dieu, où on se repaît. Que l'on ait beaucoup de bien ou pas, je veux dire, c'est pas la question, c'est plutôt la question de l'attitude intérieure. Je me repais de consommation, etc. Et quelque part, ça suffit à moi-même. On voit des tas de gens qui n'ont pas du tout de pratique, qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas. Oh, c'est pas des mauvaises personnes. Elles ne font pas le mal. En tant que telles, elles ne font pas le mal. Avoir un riche de festin, faire des festins, bon, pourquoi pas, mais c'est pas un mal. Si ce n'est, c'est ce qu'on appelle en. Dans l'examen de conscience, voilà, je prends conscience aussi des péchés par omission. C'est quoi le péché par omission? C'est le bien que j'ai vu, que j'ai vu, le bien que j'ai vu cette personne qui était seule, j'ai vu cette personne qui était dans la nécessité, mais ce bien que j'ai vu, ce bien à faire, je l'ai vu, mais je n'ai pas voulu le faire. Et c'est ça que dénonce Jésus dans la parabole. C'est ce péché par omission. C'est, j'ai vu un bien, j'ai vu la vieille dame qui a traversé la rue, chargée d'affaires, etc. Est-ce que vous voulez, moi je peux me proposer, est-ce que vous voulez que je vous aide à traverser vous, voilà, j'ai vu ça, mais non. Je préfère me retirer, je préfère me mettre complètement à l'écart parce que je suis pressé, parce que j'ai d'autres choses à faire. C'est cette surdité, je préfère ne pas voir. Hein, et parfois on se met dans des situations où on ne voit pas. Hein, et donc du coup c'est pour nous aussi quelque chose d'important, c'est l'important de voir l'autre comme un don et une grâce. Ça demande d'écouter et ça demande d'abord d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur. L'autre n'est pas simplement le clochard de la rue Intel. Il a un nom, un prénom, il a une histoire, il a une vie, il a une famille, il a eu certainement des échecs qui l'ont amené là, qui a fait qu'il a dégringolé dans l'échelle sociale et qu'il se trouve réduit à toute extrémité. Il a peut-être lui-même, il y a contribué parfois amplement par sa manière d'agir caractérielle, etc., que sais-je. Mais c'est d'abord une personne. Et le reconnaître comme personne, c'est ça qui va le faire exister. Et donc c'est le voir et l'entendre. C'est ouvrir nos yeux et ouvrir nos oreilles. Et ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu et ouvrir nos yeux aussi aux réalités de ce monde. Vous voyez, il y a un lien entre les deux. Et le Saint-Père le rappelle très bien. Hein. Ainsi se manifeste le vrai problème du riche. La racine de ces maux réside dans le fait de ne pas écouter la parole de Dieu. Ceci l'a amené à ne plus aimer Dieu et donc à mépriser le prochain. Hein, je ne sais pas, vous numéro 3, c'est dans la dernière paragraphe, enfin, parmi les derniers paragraphes, hein, c'est écouter l'avenir. Voilà, c'est ça, c'est l'avant-dernier paragraphe. Hein, donc, il méprise Dieu parce qu'il méprise le prochain parce qu'il n'écoute pas. La parole de Dieu est une force vivante capable de susciter la conversion dans le cœur des hommes et d'orienter à nouveau la personne vers Dieu. Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, en même temps très beau et fort à la fois. Il y a un lien entre ma relation avec le Seigneur et la relation que j'ai avec l'autre. Comme je me laisse interpeller par la parole de Dieu, eh bien, je me laisse interpeller par celui qui vient à ma rencontre. Mais aussi, l'inverse est vrai. Si ma vie ne consiste, comme on le voit pour beaucoup de gens, « Oh, je ne fais pas le mal, mon père. Hein, » Parfois, on a comme prêtre des personnes qui disent « Bon, ils viennent se confesser, mais je ne sais pas quoi confesser. Au fond, je ne fais rien de mal. » Oui, mais est-ce que vous faites quelque chose de bien? C'est important, ça aussi. Est-ce que vous faites quelque chose de bien? Voilà, alors du coup, là, ça les interroge. Et ce bien-là, le fait de ne pas faire le bien, c'est aussi un péché. C'est, comme j'ai dit, par omission. Donc, laissons-nous toucher. Je pense qu'il faut... Et c'est là où il y a une grâce de laissons-nous... Il y a des moments qui font que... on va ouvrir le cœur parce qu'on a eu tel événement dans notre vie, on a eu telle rencontre dans notre vie, on a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que ça nous a décentré de nous-mêmes. Et du coup, on s'est dit, tiens, mais la vie, elle est courte et la vie, elle n'est peut-être pas ce que je pense de simplement manger, boire, avoir les loisirs, avoir le confort. C'est peut-être pas que ça la vie, il y a peut-être d'autres choses. Et on voit des personnes qui reviennent au Seigneur, bien souvent avec des épreuves, parce que précisément ils découvrent que dans le Seigneur, bien, il y a quelque chose qui répond à une soif intérieure. Hein, vous le savez, c'est l'évangile de la Samaritaine aujourd'hui. Mais c'est ça, le principe de la Samaritaine, c'est il y a une soif intérieure, mais on fait tout pour éteindre cette source, pour que cette source, que les personnes surtout ne se tournent pas vers Dieu et oublient Dieu progressivement, uniquement par le matériel, par la recherche de la consommation. Et ça fait que individualisme, c'est pareil. je ne vois plus, j'écoute pas Dieu, je ne vois plus mon frère. Et le Saint-Père fait le lien très bien entre les deux. C'est ce désir, de ce culte du confort, ce culte de toujours plus, me rend ensuite insensible. Parce que du coup, j'ai trop peur de perdre ce confort. Peut-être. Et l'autre, il va me demander quoi ? Il va m'emmener où ? Est-ce qu'il va m'emmener plus loin que ce que j'aurais voulu au départ ? Et du coup, je préfère mettre tout de suite une distance. Ça, je crois que c'est... Et donc, la vie spirituelle est très certainement quelque chose qui va nous aider à redécouvrir la personne du pauvre. C'est cette vie spirituelle qui va nous aider pendant ce temps de carême. C'est ce que le Saint-Père dit dans sa conclusion. Le carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa parole, dans ses sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui, au cours des 40 jours passés dans le désert, a vécu les pièges du tentateur, nous montre le chemin à suivre, que l'Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour découvrir le don de la parole de Dieu, être purifié du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin. Voilà, c'est... Donc je pense que c'est une belle... Vous pourrez relire éventuellement, emmener le texte chez vous et retravailler ce texte du Saint-Père qui est très riche, que de ce monde, au fond, on n'emporte rien d'autre que les actes d'amour désintéressés. J'ai été pendant plusieurs années en Argentine, etc. Il y a un dicton qui dit « le linceul n'a pas de poche ». Le linceul n'a pas de poche, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que de cette terre, je n'emporterai rien. Rien, rien d'autre que les actes d'amour désintéressés. Rien d'autre que ces actes d'amour de Dieu que j'ai pu vivre dans la prière et dans l'écoute de sa parole, la pratique des sacrements. Rien d'autre que les actes d'amour désintéressés envers le prochain. Alors, si tu invites quelqu'un, surtout invite quelqu'un qui ne te rendra pas l'appareil, etc. Donc, tout cet aspect de l'évangile qui justement nous invite, et le pape François l'a remis au cœur de son pontificat, c'est quelque chose qui est dans la grande tradition de l'Église depuis le début même du christianisme, c'est soutien aux personnes plus en fragilité, en solitude, avec toutes les formes de fragilité possibles et imaginables. Mais justement, c'est ça qui va me faire prendre conscience que c'est ça la vraie richesse, c'est pas l'accumulation de biens, c'est cette accumulation là de si on peut accumuler, mais en tout cas ces moments de rencontre, ces grâces particulières où je redécouvre l'autre comme une personne et l'autre, à mon regard, par mon regard, se découvre, cette personne-là, elle-même comme un don. Vous vous rappelez dans un événement que Mère Teresa avait cité d'une personne qui était dans cet état-là en Inde, qui était à toute extrémité, qui avait été emmenée au mouroir des sœurs de Mère Teresa. Il dit « J'ai vécu comme un chien, je meurs comme un ange. » Parce qu'on m'a juste lavé, on a juste pris soin de moi, on m'a aimé. Et parce qu'on m'a aimé, eh bien je me sens exister. Et parce que je me sens exister, j'ai une dignité. Et ça aussi, ça prépare le royaume des cieux, la partie spirituelle. Ça aussi, il faut être attentif à la dimension spirituelle des personnes que vous visitez. Je ne sais pas comment ça se passe dans les conférences, mais parfois je sens qu'il y a comme s'il y avait une différence entre la partie plus visite ou sociale, entre guillemets, même dans l'Église, il y a des personnes qui sont plus impliquées dans la vie, dans la dimension sociale, de soutien, d'aide, etc., et d'autres plus impliquées dans la vie de prière. Et comme si ce n'est pas un peu les mêmes personnes. Alors, je trouve que dès qu'on rencontre la personne en difficulté, comme il est bon de lui proposer cette vraie richesse qu'est le Christ que l'on rencontre dans la prière. Parce que c'est aussi lui offrir le don d'une vie spirituelle. Et de ne pas nier ça. Si on ne vient qu'avec les secours, j'allais dire, matériels, c'est bien, mais c'est largement pas suffisant. Et est-ce que j'en suis aussi de ce témoignage de la foi auprès de personnes qui sont dans la solitude, que vous visitez dans le cadre de la conférence ou dans d'autres cadres. Voilà, c'est vrai que c'est parfois Je trouve ça dommage qu'on ne prend pas en cause, on dit mais on ne veut surtout pas imposer, quelque part je ne veux pas profiter du fait que j'aide l'autre pour lui dire quelque chose de ma foi, parce que sinon il ne serait pas libre, etc. C'est un peu dommage que, par exemple, j'étais parfois des repas dans un autre lieu en France, un autre diocèse, des repas du Secours catholique, on ne commençait jamais par un bénédicité. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'il y a quelque chose de la vie de foi que ces personnes-là, elles ont aussi soif de Dieu. Pas simplement de pain. L'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alors il faut aussi être clair, là aussi, de notre côté. Oui, nous soutenons, mais aussi cette dimension de vie de prière, chacun selon sa confession. Je pense que pas plus ouvert que l'Église catholique de ce point de vue-là, on ne va pas les faire rentrer de force dans l'Église ou je ne sais pas. Non, pas du tout. Mais avec notre foi, nous pouvons prier et les inviter à confier des intentions et à leur dire qu'on prie pour elles. Cette dimension-là spirituelle, je trouve que c'est trop souvent absent. C'est qu'on est dans le social ou on est dans le spirituel, vous voyez. Et je trouve que ça, c'est... Et le Saint-Père, il dit non. L'écoute de la parole de Dieu me pousse ensuite à ouvrir les yeux sur la nécessité. Et vive les choses dans une unité. Vive les choses dans une unité. Et parce que je vis les choses dans une unité, bien du coup, c'est toute la personne à mes corps qui est prise là et qui... d'une manière ou d'une autre, voilà, se retrouve rassasié par la parole de Dieu, mais aussi par le pain quotidien, parce qu'on a besoin de ce pain quotidien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans ces quelques mots, tout simple, hein, pour nous aider à méditer sur le message du Saint-Père.